Merci, merci vraiment au Y2J de nous avoir introduit le thème de l'épreuve en ce début de culte. Et il est vrai qu'on aimerait tous finalement avoir une vie tranquille, une vie sans épreuve, comme dirait la métaphore, que la vie soit un long fleuve tranquille, mais malheureusement pour nous, il n'en est rien. Mais à quoi donc comparer la vie? À quoi donc la comparer? C'est vrai que les métaphores s'accumulent selon les circonstances. Et la vie peut être un combat, par exemple. Certains chrétiens l'ont comparé aussi à une marche. L'apôtre Paul la compare aussi à une course. Et ici même, j'ai le souvenir d'avoir écouté une prédication qui nous parlait de la vie comme une randonnée pédestre. Je me souviens aussi avoir entendu parler d'une course de cyclisme par un amateur de vélo qui se reconnaîtra. Bah pour ma part, ce matin, quitte à sombrer dans l'anachronisme pour caractériser la vie, j'utiliserai l'image d'un voyage en avion. Si la vie, notre vie, était comparée à un voyage aérien, quelles en seraient les caractéristiques? Je vous propose de lire dans la première lettre de Pierre ce que je pourrais qualifier de plan de vol concernant le voyage du jour. Je laisse la place à Grégoire pour la lecture.
1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi.
Merci Grégoire. Voici donc le texte qui va, je l'espère, alimenter notre imagination métaphorique du jour. Embarquons, embarquons les amis, dans ce vol qui visiblement nous garantit une arrivée sans encombre. Mais avant d'embarquer, essayons quand même de nous renseigner sur ce vol. Car avec tous ces accidents, on n'est jamais trop prudent. Alors, la compagnie aérienne, quelle est-elle? Air Diaspora. Air Diaspora. Quel drôle de nom! C'est vrai qu'aujourd'hui, les compagnies redoublent d'imagination en termes de nom pour nous rassurer et pour nous guider sur les caractéristiques d'un voyage. Prenons par exemple EasyJet. EasyJet, nous comprenons facilement que les vols de la compagnie sont faciles à réserver, faciles à payer, faciles d'accès, quoi. Et si je prends encore une autre compagnie au hasard, je cherche un peu dans mon imagination, une compagnie connue. Ah oui, Fly Emirates. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous avez déjà vu ce logo quelque part? Fly Emirates, c'est une image que j'ai souvent vue sur un maillot de foot, bref. Et il est clair que cette compagnie évoque une destination des pays du Golfe, avec sûrement des pétrodollars qui pleurent. Je sais pas, j'imagine. Mais Air Diaspora. Selon le plan de vol, il me semble que cette compagnie est destinée à une nation dispersée à travers le monde. Un groupe d'individus ayant un point commun, mais qui, pour une raison particulière, a dû être chassé de sa terre d'origine. Visiblement, des persécutions ont provoqué leur dispersion sur la terre. Yannick nous en a cité tout à l'heure. On ne parle pas encore de mort, mais plutôt de calomnie, d'injures ou de rejet social. Tout cela à cause d'une obéissance à un dieu et à l'imitation d'un modèle de vie qui leur a été montré par un certain messie. Alors, le nom de la compagnie, c'est bien. Peut-être qu'on pourrait se renseigner sur le prix du billet. Le prix. Cherchons un peu. Alors, oui, le prix du billet, il est écrit, je crois, sur le billet, que le prix a coûté le sang du Messie. Le sang du Messie. Donc le billet est gratuit. C'est un bon plan, ça, dis donc. Les voyageurs de ce vol doivent tous accepter de s'être fait offert le vol gratuitement à cause de ce Messie. Vous savez, celui dont le sang a coulé pour je ne sais plus quelle raison, cette histoire me dit quelque chose. On n'en a pas parlé la semaine dernière par hasard ? Oui, visiblement, le président de la compagnie a sélectionné les voyageurs d'avance en les aspergeant du sang de son fils. Bizarre tout ça. Mais alors si le coût du billet est gratuit, ce vol doit déjà être plein à craquer. Pourquoi tant de sièges sont encore non réservés pour ce voyage ? Ah, j'ai compris. À mon avis, vu que ce vol est gratuit, ça doit être un charter. Il doit y avoir pas mal d'escales. Bon, voyons ça. Les escales. Alors, le nombre d'escales est illimité en fonction de la demande. Oula. Mais c'est injuste, ça. Il y a de quoi se plaindre à la compagnie. C'est-à-dire que si je m'y prends à l'avance, comme je suis très organisé, et que je réserve mon billet pour mieux m'organiser, je vais devoir me farcir toutes les escales et voir des passagers monter au fur et à mesure du voyage. Ouais, je commence à comprendre un petit peu les inconvénients de cette compagnie. Alors, charter, vol gratuit, à mon avis, les conditions du vol, ça doit pas être terrible. Alors, regardons ça, observons un peu les conditions de vol, essayons de voir, ah, peut-être qu'on peut réserver une place en business class, peut-être, non ? Voire première classe. Alors, la classe. Attribution selon la volonté du PDG, d'accord. Alors, de mieux en mieux. C'est vrai que, quitte à voyager sur cet avion, j'aimerais bien avoir une place confortable quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en business class, voire première classe. C'est très agréable. Hein, on peut avoir des lits individuels, buffet à volonté, cocktail. Ouais, ça me dit bien, la business class. Parce que la classe éco, avec les pauvres, pas terrible. On ne mange pas à sa faim. On y est mal vêtu. Ouais. J'espère que le PDG a prévu une bonne place pour moi. Alors, les conditions de vol. Oula. Alors, le plan de vol nous apprend que des secousses et perturbations sont inévitables pour cause de sanctification. Ok, mais là, je comprends mieux pourquoi les places sont vides. Visiblement, durant le voyage, la souffrance est un passage obligatoire. Il s'agirait d'une préparation qui amènerait petit à petit les passagers à rencontrer le président de la compagnie. Très bien, mais que représente ce processus de sanctification ? Comment est-ce que la souffrance peut-elle aider à devenir saint? En lisant attentivement le plan de voile, nous comprenons que chaque perturbation purifie le passager. En effet, si le passager accepte à chaque épreuve d'être soutenu par une aide mise en place par le chef de la compagnie en personne, il saura appréhender les prochaines secousses avec un regard différent. Ok, donc après avoir vérifié le nom de la compagnie, les modalités d'achat, oui c'est gratuit, ça c'est bien, le nombre d'escales, ça c'est moins bien, les conditions de vol, ok, on va s'intéresser à la destination finale, parce que c'est quand même ça le plus important. Alors la destination finale, c'est la terre promise. Ah oui, là ça me parle, la terre promise, oui, nous avons lu que les passagers, finalement, ne sont que des hôtes de passage dans cet avion. Le voyage proposé ne dure pas indéfiniment. Apparemment, c'est à l'arrivée de ce périple que les voyageurs verront enfin le président de la compagnie, ainsi que celui qui a payé le prix du billet. Cette rencontre aura lieu dans un cadre idyllique, où les perturbations prendront fin. Les secousses s'arrêteront pour de bon. Un endroit où ce cycle de souffrance cessera pour l'éternité. Alors en attendant la fin du voyage, en attendant ce jour où le généreux donateur apparaîtra, le passager est invité à lui faire confiance, et ce même si il ne l'a jamais vu. Alors du coup, je sais plus trop quoi penser de cette compagnie. En fait, je me dis que la destination est sympa. Bon, les conditions de vol laissent un peu à désirer. Est-ce que le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Et vous, auriez-vous envie de faire partie de ce voyage qui est parfois tumultueux pour aller à la rencontre de ce PDG, de ce président de compagnie? Cela mérite réflexion, chers amis. Et pourtant, nous y sommes dans ce voyage. Oui, nous sommes en train de voyager dans cet avion de la vie, où certains d'entre nous ont déjà accepté le billet qui a été offert gracieusement. Le jour où nous avons réalisé que Jésus-Christ était mort pour nous, nous avons intégré cette famille de croyants qui se dirige jour après jour vers le Père Céleste. Et finalement, dans ce voyage, c'est bien la gestion des fameuses perturbations qui est le plus éprouvant. Ce texte que Pierre a écrit pour encourager les croyants dispersés nous laisse quelques pistes d'encouragement qui prennent racine en un fait majeur. Le salut offert par Jésus-Christ. Voilà l'espérance qui doit nous motiver à vivre et à avancer. Lorsque nous avons accepté le Christ, notre ancienne nature est morte en même temps que lui sur la croix, afin que nous puissions renaître et espérer à une vie nouvelle. Alors le plus fort dans ce cadeau, c'est qu'il est irrévocable et il est continu. À chaque fois que nous nous trouvons confrontés à des fardeaux liés à notre nature humaine, nous sommes appelés à renaître de nouveau en laissant petit à petit la personne de Jésus en vrai en nous par son esprit. Est-ce que cela va nous procurer une guérison physique à tous les coups? Est-ce que cela va nous garantir la réussite systématique dans tous nos projets? Ce n'est pas ce que cette parole nous dit. Les épreuves font partie de l'ADN du croyant. Cependant, avec la nature de Jésus qui progresse en nous jour après jour, lorsque nous sommes à terre, nous apprenons alors à mieux nous relever. Nous nous relevons comme lui, s'est relevé de la mort le troisième jour. Oui, ce cycle de rechute peut nous paraître long et redondant. Mais sachons que cette période terrestre n'est que temporaire. Nous ne sommes que des hôtes de passage, profitant des biens que Dieu nous a prêtés. Nous ne sommes que de tout petits êtres humains dont les épreuves prendront fin le jour de la venue du Christ. Et ce jour-là, c'est très simple. Le mal sera puni et notre foi en Christ sera récompensée. En attendant ce jour, saisissons-nous du Christ et imitons-le afin d'être au diapason avec sa sainteté. Préparons-nous à cette rencontre en le laissant travailler en nous par son esprit. Nous pouvons vraiment nous confier en l'Éternel lors de différentes épreuves, lorsque nous en traversons comme les jeunes nous l'ont invité ce matin. Et je vous invite à chanter à nouveau ce chant « Je me confie en toi ». Confions-nous en l'Éternel, qu'il puisse nous faire croire en cette espérance vivante et joyeuse.